musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon!
Vive le soleil!
Vive
les oreilles!
Libre!
Parce que, à ce titre-là, je considère, et c'est pour ça que j'écris ce livre, je suis plutôt
comme le cinquième Beatles. Et je dis ça avec toute l'amitié et respect que j'ai pour le regretter George Martin. Je pense que c'est quand même moi qui ai fait le son des Beatles et qui ai permis d'avoir ce succès. Enfin, j'ai pris ça dans le page pour le signifier. Parce qu'il faut savoir pourquoi on a pu faire ça, en fait. Les Beatles ont enregistré tous leurs 10, sauf un, qui est mauvais, j'en peux pas en parler, au studio EMI, qui était des très grands studios à l'époque, de grandes voix enregistrées là-bas, le London Symphonic Orchestra enregistrait ses disques, les 5 studios, magnifiques, tous les jours, ils étaient enregistrés. Et il y avait des normes. Il y avait des normes pour une clarinette, c'était 1m20. Donc, pour une grosse caisse, c'était entre 1m60 et 1m80. Et il y avait des gens, blouses grises, c'était comme une administration, leur métier c'était de placer les micros devant les instruments. Il y avait des gens, blouses bleues, leur métier c'était de câbler, de faire le patch. Et puis des gens avec une cravate qui étaient derrière la console et qui étaient les ingénieurs du son de mélange, qui mélangeaient tout ça. Et c'est ce que j'ai fait puisque je suis rentré en 1962, j'avais 16 ans à l'époque, trois à Bayreuth, de près du métro Saint-Denis à Londres. J'ai été embauché dans les studios EMI, parenthèse, l'original du tableau de Francine Barbeau, qui est dans le hall du studio EMI. Et au bout d'une semaine, je suis rentré lundi, j'étais embauché lundi, et le samedi, il y avait une séance d'un jeune groupe qui venait un peu auditionner devant George Martin. Ce groupe venait de Liverpool, en fait, non, il venait de Hongrie. Et sur les conseils de Pierre Bure, ils étaient venus auditionner. Ceux qui n'étaient pas là. Et c'était la première séance des Beatles. Moi, j'étais là et j'ai été jusqu'à la dernière séance, une magnifique séance du morceau des Ziggy en 1969. Dernière fois, ils ont été les quatre ensemble en studio. Ringo venait de finir son solo, enfin, sur sa partie de batterie. Et puis, il y a eu trois solos enchaînés. D'abord Paul, George et John à la fin, et c'est la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, et j'ai été là. Donc d'abord comme assistant, et puis ce fameux jour d'avril 66, où George Martin, en fait, je dis George Martin, parce que tout le monde le connaît comme ça, mais nous à l'époque, on l'appelait George H. On s'est dit qu'il y avait deux George dans le. Donc lui s'appelait George N. Martin, et pour ne pas confondre les deux George, on l'appelait George H. Ce qui en fait était ridicule, parce que l'autre George était George Harrison, qui commençait aussi bien par H, mais bon. Donc c'était pas plus ridicule que de m'appeler, de m'avoir surnommé Joe Fernick. Donc je reçois un coup de fil et il me propose, les garçons vont rentrer en studio pour plusieurs mois. Et est-ce que tu veux devenir leur ingénieur du son? Presque aussi célèbre que Dieu, déjà, à l'époque. Et donc, j'ai eu le choc, j'ai 18 ans, je me retrouve à cette première séance, le 6 avril, la séance était programmée dans le studio 3, la Belle Rose, à 20h. Donc, dès 18h, il y a les mobiles qui sont arrivés, mal, ils installent les amplis, etc. Moi, j'arrive à 19h, mon assistant Phil fait les tests de micro, tests de voix, etc. Et j'avais pas dormi de la nuit, j'étais très malade, j'étais vraiment pas en forme. George Martin arrive, tout va bien, et à 20h précise, les 4 Beatles, c'est ça, je vais vous raconter, je vais pas vous raconter tout le livre, je vais vous raconter juste cette séance. Pour 25 euros, vous les aurez tous. Donc, ils arrivent, ce qui est très important, c'est que c'était 20h. Très important, c'est que c'était la nuit. Ça, je ne pas oublier. Parce que si on a pu inventer quelque chose, parce que c'était la nuit, en fait, les Beatles, à partir de Revolver, on travaillait la nuit. Donc il n'y a plus de blouse blanche, plus de blouse grise. Le plus vieux devait avoir 24 ans, on était dans les années 60, et là, on avait tout le matos qui est mal. C'est vraiment bien amusé avec ça. On a fait un peu ce qui était interdit. Donc les Beatles arrivent, ils regardent George Martin et John Lennon, qui était un peu sans rire, un peu un mouvement bien comme ça, et bon, on va faire un morceau qu'on n'a jamais fait, hein, comme ça, il n'y a qu'un accord, ça va être un peu comme un rôle, comme ça. Il se retourne vers moi, il me fait, et John, moi j'aimerais que ma voix, elle ressemble au Dalai Lama psalmodiant en haut d'une montagne lointaine.
première séance, pas dormi, comment je vais faire ça? Et là, j'ai revu le hall d'IMA, où je passais tous les matins depuis 4 ans. Et il y avait ce haut-parleur. Et je me dis, mais en fait, si on faisait rentrer la voix de John dans un haut-parleur, on faisait bouger le haut-parleur, ça ferait peut-être l'effet qu'il veut. Et justement, dans le studio, on avait un organe. Donc ça tombait bien. Dans les organes, il y avait un effet, d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un haut-parleur, et quand on mettait en route, il y a un haut-parleur qui se mettait tourné, qui faisait ce son d'esprit. Donc je me suis dit, si on mettait la main de John dans l'organe, il pourrait tourner. Peut-être que je regarderais ma place, l'ingénieur du son, moi, j'ai dit. Donc avec mon assistant Phil, on a fait des réglages, enfin, on a fait des réglages, en 2 heures, on a fait vraiment changer le truc. Et il a chanté. Et là, dans la cabine, George Harrison, Ringo, Paul me sont tombés dans mes bras. En disant, c'est pas, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de la même.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous recevons Barbara Dang pour la revue « Revue et corrigée », une revue qui existe depuis bien des années. Depuis quand, Barbara, existe cette revue, ce magazine ?
Bonjour. Donc, Revue et Corrigée existe depuis l'hiver 89.
Ah, voilà. Oh là là.
Premier numéro.
D'accord, d'accord. Moi, bon, il me semble que j'ai été abonné dans les années 90 et il me semblait recevoir le numéro 7-8 à la maison à l'époque, à partir de ce moment-là. Mais on y reviendra. Peut-être avant tout, on va dire ce qu'on vient d'écouter parce qu'on a l'habitude de commencer les émissions par de la musique. Or, ce n'était pas vraiment le cas. On a écouté un enregistrement qui a eu lieu à Vendeuvre, je crois.
Oui, dans le cadre de Musique Action 2016.
Voilà, le festival de Vendeuvre-Vallée de Nancy, organisé par Dominique Repeco. Et on vient d'écouter Jean-Christophe Camps. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Donc, Revue et Corrigée, depuis quelques années, organise des soirées à son nom.
Ouais.
Et elle a pour principe de proposer des chroniques en direct. Donc, un certain nombre de volontaires se prêtent à l'exercice de faire des chroniques
de disques ouais.
Devant le public, ouais, donc proposer public. Une situation d'écoute et tout ça devant le public. Et pour cette soirée, enfin je sais plus si c'était en soirée ou en journée, Jean-Christophe Camps a proposé une chronique d'un livre,
ouais,
qui s'appelle
En studio avec les Beatles. De Geoff Emerick, qui est sorti sur Le Mot et le Reste.
Voilà.
C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et alors, est-ce que à chaque fois que vous avez fait ça, je crois, moi j'avais vu une soirée aux Instants Chavirés à Montreuil.
Oui, c'était au moment de la passation justement entre.
Ah ouais, on y reviendra.
Entre Jérôme,
ouais,
et moi, on y reviendra, ouais.
Ouais. Et je crois qu'il y a eu une soirée également à la Malterie, là d'où tu viens.
Ouais. À la Malterie, donc c'est en mars. Ouais. Enfin, je dis c'est en mars parce qu'en fait, c'est prévu que ça se fasse à chaque fois, en fait.
Ah, d'accord, ouais.
Tous les ans, en mars, à la Malterie, dans le cadre de Musique C'est Associé, qui est un festival
ouais.
De là-bas.
Et ça se fera également à Vendeuvre, non ?
Ça se refera à Vendeuvre, donc pour la deuxième fois. Mmh. Je pense qu'il n'y en a pas eu avant, ou
non.
Peut-être que je me trompe. Mais pour la deuxième fois, c'est prévu pour mai 2017.
D'accord.
Pour Musique Action 17.
Voilà. Bon, donc voilà, c'est chronique. C'est les chroniques qu'on trouve dans la revue. Ah, peut-être avant tout, quand même, on pourrait présenter qui tu es, Barbara. Barbara Dong. Qui es-tu, Barbara Dong?
Je suis Barbara Dong.
Tu es musicienne, allez.
Je suis musicienne au départ.
Ouais.
Pianiste, encore plus initialement pianiste. Parce que il y a beaucoup de pianistes, je pense, qui sont plus que pianistes.
Ouais.
Bah voilà, c'est déjà pas mal.
Tu fais partie du collectif Musix également, ouais. Il me semble.
Oui, à Lille, basé ouais. À Lille.
Et je me suis laissé dire que tu avais un duo en préparation avec Sophie Agnel.
Oui, c'est un duo assez récent. C'est un quatre mains même, du coup.
Oui.
On est à deux sur le même clavier. Et là, on a commencé, ça fait déjà un moment, puisque la première représentation, c'était en juin 2016. Et on commence notre répertoire par une pièce de Tom Johnson qui s'appelle Symmetries.
Ouais.
Voilà, donc qui est une partition tout en symétrie, comme ça on doit être très symétrique. Ça porte bien son nom.
Ouais. Bon, là c'est la rédactrice en chef de la revue, Revue et Corrigée, donc qu'on reçoit aujourd'hui. Mais alors, t'es pas bien vieille quand même, Barbara. Et est-ce que tu peux nous raconter par rapport à tes anciens prédécesseurs, tes fameux prédécesseurs, tes illustres prédécesseurs, comment t'es arrivée un petit peu à ce poste-là de rédactrice en chef de Revue et Corrigée, qui est quand même dans les milieux des musiques singulières, inouïes, expérimentales, électroniques et tout ce qu'on veut, qui est quand même une référence. Comment t'es arrivée dans cette équipe-là et rédactrice en chef?
C'est assez simple. En fait, je connais la revue parce qu'elle était distribuée à la Malterie, du coup, là où musique, c'est... Enfin, il y a une grosse activité de ces musiques-là, et donc elle était vendue là-bas. Enfin, elle y est toujours d'ailleurs, mais il y a eu un temps d'arrêt parce que, la vente ne marche pas forcément très bien. La vente au numéro, ça marche jamais très bien. Et donc je l'ai connue comme ça, et donc c'est une revue que je feuilletais. Et j'étais pas non plus complètement à fond. Mais en tout cas, y a un parallèle évident, enfin un écho évident entre les musiques qui se passaient donc à la Malterie et le contenu de la revue, surtout que musique, c'est un truc qui est né un peu à la même période, un peu plus tard. Musique, c'est plus jeune, mais pas beaucoup plus jeune en fait.
Les années 90,
j'imagine. Oui, c'est ça, c'est plutôt 90. Ouais. Donc on est pas très loin, c'est quand même des choses qui sont nées à la même période. Et donc un jour j'ai appris que Jérôme voulait passer la main, ou du moins arrêter la revue. Enfin, en tout cas son poste de rédacteur en chef. Et ça signifiait quand même la fin de la publication, parce que dans la revue on est tous bénévoles, et qui veut porter ce chapeau-là, cette tâche qui est assez lourde, et enfin en tout cas c'est vraiment beaucoup de boulot de s'en occuper. Et je me suis portée volontaire.
T'es contente? Tu regrettes ou pas?
Disons que c'est beaucoup de travail, et j'apprends à donner sans avoir le sentiment de recevoir immédiatement, mais je sais que quelque part je reçois beaucoup.
En tout cas, la cause est noble.
C'est ça.
Alors peut-être tu peux, alors je sais pas, du coup, est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de la revue? Pourquoi ça a été créé? Quel était l'objectif, la matière de la revue, le propos? De quoi il est question dans cette revue? Est-ce qu'on parle de tout, n'importe quoi? Non, je crois pas.
Alors, retracer l'histoire, je sais pas, parce que c'est pas facile de parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu, vu que j'étais peut-être encore enfant quand la revue est née. En 1989. Mmh. Et là, justement, je suis devant la couverture du premier numéro.
Ouais.
Et bah, je peux en lire la...
Ah oui, je veux bien.
Qu'on
oui.
appelle ça
le sommaire.
Le réflexio ou le... Enfin, le
la, l'édito.
Les, oui, voilà, l'édito qui était écrit sur, sur la couverture.
Ah ok. Ouais.
Ouais. Alors, le problème, c'est qu'elle est... faudrait que je la mette en double page. Parce que sinon, je vais devoir faire des va-et-vient un peu pas pratiques. Mais je vais essayer quand même. Donc ça, c'est le texte de... Ouais, c'est, voilà, c'est l'édito du premier numéro trimestriel... l'hiver 89. Ça coûtait 15 francs à l'époque.
Wow. Ouais. Ouais.
Alors, de John Cage à Fred Frith, de Pierre Schaeffer à Suicide, la musique de ces 40 dernières années, par sa brutalité et son désordre apparent, a bouleversé bien des principes établis. Cette dynamique continue de générer aujourd'hui une multitude de poètes et de chercheurs, tous portés par la passion de nouveaux langages. J'espère que je ne loupe pas des mots parce que je fais vraiment un va-et-vient entre les deux. Les buts de Revue et Corrigée sont de rester à l'écoute de ces expressions nouvelles et de tenter de les faire mieux connaître. Dans ce sens, les artistes interviendront eux-mêmes dans ces colonnes le plus souvent possible. Ainsi, chaque trimestre, l'attention sera portée sur les hommes et les événements qui non seulement font l'actualité, mais aussi l'histoire de la musique.
Bon, disons, c'était ambitieux. Et alors, il y avait qui au sommaire de ce premier numéro ?
Donc, au sommaire de ce premier numéro, nous avions donc le je ne sais pas s'ils appelaient ça à l'époque un directeur de publication. Bah si, c'est ça. Directeur de publication, Olivier Masson.
Ah oui, d'accord. Je ne connais pas.
Bah, moi non plus. Bon. Je pense que c'était un... C'était un musicien. De toute façon, tous les... Comme ils disent, voilà, c'est
musicien
les musiciens qui parlent des autres et qui parlent d'eux-mêmes. Et, enfin,
ouais, ouais.
En tout cas...
Bah, effectivement. Est-ce que tu peux citer des noms de collaborateurs qu'on connaîtrait, nous, aux oreilles libres, je pense. Bon, Dominique Répéco, il me semble qu'il a... Qui ouais. est encore... Est-ce qu'il est encore, d'ailleurs,
oui, Dominique? Il fait partie du comité de rédaction.
D'accord,
de ouais. ouais. Corrigé. Donc, au départ, il y avait Albert Durand qui...
Ouais.
qui écrivait des articles et tout ça, et qui notamment s'occupait de la partie administrative de Revue Corrigée.
Mmh.
Donc, comme on a changé d'équipe en mars dernier, Albert Durand a passé la main à Lionel Palin.
Ah d'accord.
Sur ouais. la partie administrative. Mais il est là depuis... Enfin, il était là depuis le début,
mmh.
Albert.
Ouais, ouais, ouais.
Jérôme Nottinger, bien sûr.
Bien sûr.
Qui est-ce qu'on a ? Pierre Dur.
Ah oui,
de Strasbourg.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Alors là, je vois Guigou Chenevier.
Ah là, ouais.
Après, ses collaborations numéro, donc c'est parce qu'il, comme je te disais, il était, enfin, en off, il était, il a été interviewé. Donc là, je lis les
ouais.
ceux qui ont participé au numéro, mais en tant que autant en tant qu'interviewé ou intervieweur, je pense.
Mm.
Je me rappelle plus, je l'ai lu, hein, ce premier numéro, mais. Mais bon, voilà, ça date.
Ouais, ouais.
Sinon, dans le comité de rédaction, il y a toujours Carole Rieusec, Casper
ouais.
Toplitz, Paul-Yves Bourran,
ouais.
Mathieu Saladin, pour, c'est plus récent. Mais,
oui, oui, oui. Ouais. Bah, oui, je connais. Oui,
ouais.
Oui. Ouais, bien sûr. Bah, il est plus jeune, d'accord. Donc ça s'est renouvelé, quoi, en gros.
Ouais.
Et, ouais. Donc ça, c'est les gens qui écrivent. Donc les chroniques de disques, c'est pareil où il y a... Bah, Pierre Dur, par exemple, je crois qu'il fait que des chroniques, lui.
Oui, essentiellement.
Ouais.
Après, il a dû faire des interviews, je pense, dans le numéro précédent, mais
ouais.
c'est vrai qu'il est assez au taquet sur ouais. les sorties.
Alors justement,
de disques, ouais.
tu parles d'interviews. Est-ce que, alors, j'ai pas le souvenir dans les derniers numéros. Est-ce qu'il y a des interviews tout le temps, des entretiens?
Bah, essentiellement. Hein. C'est
ah
beaucoup
bon
d'interviews en fait.
Ouais, ouais. Alors. Peut-être tu peux nous expliquer ce qu'est la matière de Revue Corrigée. C'est quoi le comment dire là, est-ce qu'il y a une charte, un process, un angle d'attaque? Est-ce que vous avez est-ce que c'est basé sur des interviews, la parole des musiciens, ou est-ce qu'on va parler de musicologie par exemple, de théorie?
Alors c'est assez libre, je pense, en principe,
mm-hmm.
et je pense que c'est un principe auquel on s'y est bien tenu,
ouais.
Parce que déjà ça s'appelle Enfin, ça, c'est quand même sur la couverture à chaque fois. C'est surface écrite des pratiques sonores expérimentales.
Ah oui.
Ah non, mais c'est sur le site. Ça dit bien que c'est aussi une libre manière de...
D'appréhender ces trucs-là. Ouais.
Oui, je le retrouve pas là, mais... Tu veux dire par rapport au...
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le contenu?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des trucs qui sont interdits de faire? Ou est-ce qu'il y a une ligne, par exemple? Est-ce qu'il y aurait la défense de certaines musiques par rapport à d'autres, de certaines pratiques? Est-ce que... tu vois, ça existe.
Bien sûr, ouais. Une éditoriale...
Bah ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense de l'improvisation? C'est bien, c'est pas bien? Tu vois, des trucs comme ça, quoi.
Disons que... Je pense que c'est vraiment assez libre.
Ouais, ouais.
Tant que ça parle aussi de choses qui sont... Qui sont libres d'action aussi.
Ouais,
Donc, musicalement, forcément, la ligne éditoriale, elle se fait un peu naturellement pour des musiques qui sont expérimentales. Après, c'est un grand mot qu'il faudrait. Vous avez 20 minutes, qu'est-ce que la musique expérimentale mais...
Mmh. Ouais. Parce qu'il y a quand même, j'imagine, ça. Ce qui est raconté dans la revue, ça correspond à la personnalité des gens qui la dirigent, je sais pas,
qui
l'écrivent tout simplement. Et on sait bien qu'il y a des écoles, il y a des machins, des façons de voir opposées parfois même. Moi, je te dirai un truc précis, c'est que j'ai arrêté je me suis désabonné à partir du moment où j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus et des trucs qui m'intéressaient pas, à savoir à l'époque, la musique électronique. Je trouvais que ça prenait, ça squattait
ça prenait
la totalité,
de place.
Presque. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser, c'était Tom Cora, tu vois, des trucs comme ça. Et plus ça allait, plus c'était de la musique électronique.
Ouais. Donc qui était du coup, qui était un peu.
Qui était dominant en fait. Voilà le terme. Ouais. Qui était dominant dans la revue. Ça m'a, ça m'intéressait pas plus que ça à l'époque et j'ai arrêté quoi.
Oui, pourtant Je pense que Revue Corrigis se défend aussi d'être assez large sur les styles, enfin les genres, enfin en tout cas de pas se cantonner à un style en particulier, même si après il y a des tendances forcément.
Bah, j'imagine.
En plus, faut pas croire que c'est de sa faute, mais lui, je jette pas la pierre, mais il est Jérôme Tinger. Et dans l'électroacoustique, du coup, peut-être que si ça peut...
Ah bah, ça a dû influer à un moment, oui, c'est sûr.
Ouais.
Est-ce qu'on écoute, d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, un deuxième extrait de ces soirées? Comment vous les appeliez
Ces soirées Revue Corrigis.
Oh, bah, oui, tout simplement.
Du coup, soit c'est centré sur les chroniques de disques en direct. Ouais. Après, à Lille, y a toujours un ou deux artistes qui viennent.
Oui, il y avait des concerts quand même, il me semble.
Un petit concert qui sont en lien avec la revue, parce que l'idée, c'est aussi de faire toujours de tisser un lien entre ce qui se passe et puis le contenant et le contenu, comme on dit.
Ouais, ouais. Au demeurant, à Montreuil aussi, aux instants Chaviri, je me souviens de concerts, notamment de Dominique Répéco et tout ça.
Voilà, puis là, comme c'était la soirée, c'était une soirée importante parce que c'était une soirée de passation.
C'était une soirée anniversaire, non ? C'était pas les 30 ans ou...
Et en plus, c'était les 25 ans de la revue et c'était la fête du. Oui. Je sais plus si ça avait un lien avec le 102. C'était le 102e numéro.
Oui, d'accord.
Il y avait un. Voilà, c'était 102, l'événement,
donc, la salle
102,
de,
le 102 à Grenoble.
De Grenoble, d'où vient Jérôme Nottinger. Je propose qu'on écoute. Alors lui, il parle de quoi?
Je sais plus en fait.
Bon, écoute, on va écouter. Puis
ça date. Ça devait être encore quelque chose d'assez inconnu
au
bataillon.
Ah oui, d'assez particulier. Oui, oui. Ouais. Bah, écoute, on va écouter ça. On écoute Jérôme Nottinger, donc à la soirée Revue et Corrigée. Donc c'est en public, c'est pas un son extraordinaire, c'est un son avec du public, quoi.
Bien, bonjour. Moi, je vais commencer cette chronique par vous parler d'autre chose qui est liée à ce que je vais dire. Je vais parler d'insurrection. Une insurrection qui peut-être ne viendra pas. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, je ne sais pas pour le reste de la semaine. Mais la question que je me posais, c'est en fait, si l'insurrection ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour reprendre une célèbre chanson de Michel Sardou, ça serait peut-être « Alors, allons danser ». « musique acoustique bleue est un petit peu réverbérante. La dernière parole, c'est une show de dance. C'est assez facile à traduire. Devriez danser. C'est pas un ordre. C'est pas non plus un avertissement, mais c'est une sorte de conseil. Puisque c'est un peu l'idée de. Avec ce que je passe comme musique, il y a une chose à faire, c'est de danser, c'est de taper du pied, c'est de pas hésiter. Et donc, dans ce travail, qui est un travail d'un musicien qui s'appelle Michael Morley, qui est un musicien néo-zélandais, son nom de scène c'est Gate, qui est également un artiste visuel, et qui fait partie d'un groupe de Nouvelle-Zélande qui s'appelle les Dead Sea, qui est assez important dans un courant de rock un peu en marge, très en marge. Donc, c'est quelqu'un qui, dans ses solos, fait des choses très différentes, mais toujours à base d'un son très saturé, très sale. À côté de lui, on a l'impression que ce qu'on appelle la musicophilie, c'est du high-tech. C'est vraiment quelque chose de très. C'est presque plus pour moi de l'ordre du cambouis même que du garage. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du déchet, de la poussière métallique. Et c'est son deuxième disque où il explore un peu les musiques plus discours, on va dire, de danse. Avec finalement, c'est mon interprétation, une sorte de réflexion sur la musique utilitaire, sur la musique. Pour une chose précise, notamment dans l'industrie du divertissement et donc de la danse, et avec une approche sonore qui est moi, encore une fois, pour les gens qui ont suivi les chroniques, qui fait référence à la première chronique que j'avais faite, c'est aussi un rapport à moi au karaoké, que j'avais défini comme le stade ultime du post-modernisme dans la première chronique, et qui était une chronique de John Tinbury et Derek Bailey. John Tinbury, pianiste, guitariste mort en 2005. John Tinbury jouait avec des enregistrements de Derek Bailey dans quelques années. Et quelqu'un m'avait fait la réflexion qu'effectivement, mais ça c'est finalement assez classique, n'importe quel petit qui joue avec d'autres musiques, que jouer avec des morts, ce qui était vrai, mais sauf que dans le cas de John Tinbury, il y avait une réflexion, il y avait une volonté de jouer avec quelqu'un de précis, et non pas de jouer avec un son de quelqu'un qui jouait avec Derek Bailey, et non pas avec des sons de X-Men. Et là, dans le cas de ce travail de Gates, c'est vraiment l'idée de faire de manière assez rudimentaire et assez rapide, une sorte de collage, de mise en boucle de riffs, de guitares, de musique que chacun peut peut-être identifier, qui joue aussi sur la mémoire qu'on a de toutes ces musiques-là, parce qu'on les a tellement entendues qu'on a du mal à s'en échapper. En tout cas, pour les plus âgés en nous. Et et donc il y a cette idée de consommer et de digérer en même temps une musique qui est faite pour l'instant, du corps et de la danse. Ce disque s'appelle Saturday Night Fever, c'est quand même assez clair. Donc encore une fois, pour les plus jeunes d'entre nous, à l'époque, Internet n'existait pas, mais le technologie de certaines choses, c'est un film qui date de 1977, John Badham, que j'ai jamais vu, mais qui a permis de faire découvrir un acteur qui est John Travolta, et donc c'est une histoire où finalement on quitte la fièvre de la semaine de travail, comme dans un milieu assez prolétaire, pour rentrer dans la fièvre du corps et de la culture du week-end. Donc dans un moment de divertissement qui est permis par un système. Et finalement, pour moi, dans ce travail de Guette, il y a aussi cette espèce de mise en abîme d'une réflexion sur l'industrie du divertissement et sur comment jouer avec et comment s'en divertir dans cette récupération et détournement. Donc encore une fois, c'est cette idée de karaoké, mais vraiment, le karaoké finalement est un acte très populaire qu'on trouve dans beaucoup de bars et des pays plus que d'autres. Mais c'est ouvert à tout le monde, et là je trouve que c'est aussi un disque, une approche qui est entre guillemets une espèce de facilité d'action directe qui se fait avec le son. C'est aussi une sorte d'appel à non pas à prendre les armes là, mais à prendre éventuellement une guitare et une guitare. La couverture, parce que finalement c'est aussi là, c'est une référence à de, je crois, de Eagles, de l'hôtel californien, pour lequel on peut pouvoir venir à côté tout à l'heure. Et peut-être. Dans cette utilisation des musiques préexistantes, des sons dont on parle aujourd'hui, il y a aussi le fait de surligner le côté très mécanique de cette musique.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée aujourd'hui à la revue, Revue et Corrigée, avec notre invitée, la rédactrice en chef. Aujourd'hui, c'est pas la musicienne qu'on reçoit, la pianiste, c'est la rédactrice en chef de Revue et Corrigée, Barbara Dang. Alors on vient d'écouter un extrait d'une chronique de Jérôme Nottinger lors des soirées dont on parlait de Revue et Corrigée. Là c'était à Vendeuvre-les-Nancy dans le cadre du festival Musique Action. Alors est-ce que tu peux nous décrire dans le corps de la revue les différentes rubriques qu'on peut trouver ?
Oui, donc il y a des rubriques habituelles et ensuite il y a des articles. Donc les rubriques habituelles, c'est... On a la photo légende de Gérard Houy qui est là depuis un certain moment maintenant. Et
c'est quoi alors ?
C'est une photo d'un musicien souvent. Gérard, il est assez branché.
Ah oui.
Musicien de jazz.
Ouais, ouais, ouais.
Souvent, c'est des musiciens légendaires, on peut dire.
Ouais.
Et donc, un petit texte assez court qui accompagne la photo. Mmh. Voilà. Ça, c'est une des rubriques habituelles. Ensuite, il y a le compartiment rumeur avant, parce que c'est souvent présenté avant.
C'est quoi ça donc ?
Une espèce de... C'est un petit billet de Paul-Yves Bourand, en forme de texte, de prose.
Un genre d'édito ou de...
Non, je veux dire prose, comme ça, parce que c'est assez différent d'un texte à l'autre.
D'accord, ouais.
Donc voilà, ça c'est vraiment les chroniques introductives... les rubriques introductives habituelles.
Ouais.
Et à la fin, on a les chroniques de disques et suivi du ring modulation de Casper Toplitz.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Disons que c'est une série de textes avec le point de vue de Casper, en l'occurrence, sur le son, le matériau.
Ah oui, d'accord.
Et qui est mis en relation avec des chroniques, avec des disques actuels, enfin plus ou moins actuels, parce que là j'ouvre le dernier,
l'avant-dernier,
Miles Davis, l'avant-dernier, parce que le dernier est en cours, Miles Davis and the Corner, c'est pas non plus très récent, mais en tout cas qui met en lien comme ça avec des écoutes, voilà, et des disques... plutôt récent.
Les chroniques de disques, oui, ce sont des disques récents. Je crois, il n'y a pas de... Vous ne parlez pas des anciens.
Non, c'est récent. Mais, ouais. C'est vraiment les derniers.
Ça prend une part assez importante, je pense, dans la revue, ça, cette partie-là.
Oui, je pense que je les privilégie. En tout cas, je n'interdis pas de chroniquer un vieux disque.
Ouais.
Mais en tout cas, oui, on est sur... parce qu'on parle d'actualité. Bah, et
oui.
Puis...
Oui.
Et puis, y a vraiment une profusion énorme, fait, de disques qui se font. Je l'ignorais d'ailleurs avant d'arriver là et de recevoir 150 disques tous les 3 mois chez moi, avec les placards qui débordent.
Ah, c'est vrai.
Parce que les gens, ils font des disques à fond.
mais alors, comment ça se fait?
Ils produisent...
Donc, là, tu es en train de dire que c'est toi qui, en tant que rédactrice, donc tu reçois les...
Oui, je reçois les disques.
Tu reçois les disques. Et comment tu fais alors? Tu les dispatches ou comment?
Je les dispatche entre les rédacteurs qui choisissent en fait ce qu'ils veulent.
Ah oui, d'accord.
Donc je leur envoie une petite liste et.
Ah oui, ok.
Et du coup, ils choisissent ce qu'ils veulent recevoir et ce qu'ils veulent chroniquer.
Donc j'imagine que tout n'est pas chroniqué de ce que vous recevez.
Non, il n'y aurait pas la place.
Ouais,
mais beaucoup quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Par numéro, il y a au moins, je sais pas, il y a 40, 40 disques chroniqués en moyenne, je dirais.
Ouais, ouais.
Et donc, entre deux, donc entre les. Rubrique habituelle de début et rubrique habituelle de fin. Il y a les articles, donc qui sont plutôt sous forme d'interview ou de reportage ou d'analyse.
Et par exemple, un entretien, on va dire. Qui le réalise? Parce que tout à l'heure, ça m'a titillé l'oreille quand tu as lu l'édito, on va dire, je ne sais pas comment tu as appelé ça, du premier numéro. Où il était dit, c'était stipulé, spécifié que c'était les artistes eux-mêmes qui prendraient la parole dans cette revue. Donc est-ce que les interviews, par exemple, sont réalisées par des musiciens ?
Ouais, notamment.
Ouais.
Notamment. Là, dans l'avant-dernier, j'ai Carole Rieusec, qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, c'est pas très représentatif, mais... Mais oui, c'est souvent Casper Toplitz qui est musicien avant tout.
Ouais, ouais.
Dans les précédents, on va avoir Jérôme Nettinger.
Mais alors, tu vois, ma question, c'est une question qu'on se pose aussi, nous, dans l'émission. Nous, on a plusieurs façons de faire. Soit on s'efface totalement, on laisse la parole au musicien, et on veut lui faire expliciter, vas-y, raconte ta pratique musicale et qu'est-ce qu'il en est. Ou alors on peut dialoguer, et c'est plutôt Laurent qui fait comme ça d'ailleurs dans notre émission, et s'inviter et dire son propre point de vue. Là, dans Revue et Corrigée, comme tu dis, par exemple Casper Toplitz, j'imagine qu'il il a sa manière de voir la musique. Est-ce que du coup ça influe sur les questions qu'il pose aux musiciens? Est-ce que c'est un dialogue ou il est complètement tel qu'un journaliste serait censé le faire, au service de la parole de l'invité?
Je pense que du coup c'est assez c'est un vrai dialogue d'égal à égal qui s'installe. Et aussi parce que, enfin peut-être que je m'écarte de la question, mais que Revue et Corrigée privilégie les propos de ceux qui font,
ah oui.
Que ce soit du côté de l'interviewé que de l'interviewant, l'intervieweur,
ouais.
Je sais pas comment on dit ça.
Ouais.
Mais ouais, donc je pense que du coup, c'est vraiment un rapport d'égal à égal. Il n'y a pas vraiment un ton journalistique particulier,
ouais.
Je pense pas.
Oui, vous ne prenez pas pour des journalistes,
ouais.
Comme nous, on ne se prend pas pour des
comme
animateurs radio.
Je pense aux interviews de Philippe Robert, qui est plutôt rédacteur, c'est plutôt un auteur.
Ouais.
Pour le coup, du coup, c'est pas un musicien, mais même quand il interviewe le personnel de Souffle Continu dans le 109 ou celui d'avant, je ne sais plus, 108.
Ouais, ouais.
Il a quand même un rapport très, voire amical, quand même, avec, avec son invité.
Oui, c'est clair. Ouais, bah oui, comme nous. Ouais.
Ouais.
Est-ce que tu as, toi, ton mot à dire, je veux dire? C'est toi qui décides un peu de ce que va contenir la revue? Ou est-ce que tu as des propositions? Est-ce qu'il y a, par exemple, des propositions de gens... sur un coup, un one-shot, comme on dit, tiens, je vous propose un article, un truc comme ça?
Bah, c'est un peu de tout ça, en fait. Comme je suis là depuis peu, je suis assez permissive, on peut dire.
Ouais,
parce que c'est quand même... Il y a quand même un background de choses... Enfin, de gens qui veulent écrire, en fait.
Ouais.
Et en fait, ce que je fais, c'est vraiment de la gestion de soumission de textes.
Ouais.
Donc, comme tu dis, spontané, qu'on m'envoie spontanément. Donc, je lis et je vois si ça vaut le coup ou pas.
Mmh.
Enfin, si c'est intéressant.
Mmh.
Donc, j'ai quand même... je suis quand même le premier filtre des textes qui peuvent arriver. Et ça m'arrive aussi de faire des appels à contribution quand il y a...
Ouais.
Bon, c'est plus rare, hein.
j'ai pas
encore parce que des appels à contribution, ça veut dire une thématique annuelle, ou parce que oui, c'est ça que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que les articles, donc pas qui font pas partie en dehors des rubriques habituelles, ils peuvent s'étendre aussi sur plusieurs volets, un numéro à l'autre.
Effectivement.
Ouais, j'ai vu plusieurs numéros.
J'ai vu ça dans les derniers numéros, des séries, on va dire.
Des séries, voilà. Comme c'est le cas là depuis le 108 sur la nouvelle série d'articles de Mathieu Saladin qui s'appelle Réflexio. Cycle Réflexio.
Et c'est quoi?
Et donc... c'est des entretiens, enfin c'est des rencontres qui se font avec des musiciens qui ont été organisés à l'université de Paris 8 les Instants Chavirés.
D'accord, bien sûr. Oui.
Et donc dont certaines figurent dans Revue Corrigée, voilà, en format papier.
Ouais. Est-ce que... Alors, parce que ça existe... Ça,
des formats papier, parce que ça peut prendre d'autres formes aussi. Ça peut être publié sur le site, par exemple.
Ah oui,
site internet.
Ah, on n'a pas parlé de ça. Donc il y a un site Revue et Corrigée.
Ouais, il y a un site...
Alors, est-ce qu'on trouve les articles, justement, en ligne?
Donc, sur le site, non.
Bah oui, sinon on n'achèterait plus.
Le site, c'est vraiment le relais comme ça, il y a un relais de avec une page d'abonnement. Et ensuite, c'est quand même aussi un moyen de faire écho avec le papier quand il y a des choses voilà, à voir et à entendre qu'on ne peut pas entendre et voir sur le papier. Et donc, du coup, dans la rubrique dossier, en général, il y a quelque chose à voir et à entendre.
Et des liens, par exemple.
Des liens, voilà. Le WeWater aussi, qui est une rubrique purement auditive, en tout cas qui n'existe pas sur le papier. Et qui, du coup, qui apparaît sur le site en même temps que la sortie du numéro, trimestriellement.
Alors, moi, il y a un truc qui manque, enfin, je ne sais pas s'il y a manque d'ailleurs, mais qui jure un peu par rapport à d'autres revues de musique, c'est qu'on n'a pas d'annonce de concert, tu vois, des trucs comme ça. Bon, il y a des. Évidemment, il y a des. Là, je vois par exemple sur ce.
D'agenda, tu veux dire.
D'agenda, voilà.
Ouais. Ça existait avant, ça
oui,
était...
Oui, il me semble bien, oui.
Ça...
C'était bien d'ailleurs, je m'aimais bien.
Oui, je pense que les gens aimaient bien.
Bah ouais.
Les lecteurs aimaient bien, et puis je sais pas, ça s'est.
Alors, est-ce que c'est pas dû au rythme de parution quand même, trimestriel?
Je pense que c'est ça, ouais. Ça joue vachement. Enfin, après, la rythmicité de la publication, elle a.
Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Ça a toujours été trimestriel, ouais.
Ah oui, ça, je me souviens
ça
pas.
Ça s'est
en fait,
toujours tenu trimestriellement.
Ah oui, donc c'est quand même assez rare. Mais oui, effectivement, à l'époque, il y avait un agenda.
Il y avait un agenda, ouais.
Les festivals. Et...
Mmh. Il y était question que ça soit remis. Ah. Et souvent, les questions mettent du temps. Enfin, les réponses mettent du temps à arriver.
Ouais.
Donc, pourquoi pas le remettre, mais je sais pas. Faut qu'on en discute.
En règle générale, t'as plutôt trop de matière ou est-ce que t'es dans les purs, tu dis merde, bon allez, on vire, ou c'est le contraire, tu dis ah, j'ai rien et tout.
Ça dépend des numéros, ça dépend des périodes.
Tiens donc.
Ouais. Ouais. Souvent, je peux pas dire souvent, je suis pas encore dans des habitudes, mais. Mm-hmm. Mais à la rentrée, c'est assez foisonnant. Et quand on arrive en novembre moins, et en mars, c'est plutôt fleurissant parce que c'est le printemps.
C'est marrant,
la revue sort à chaque changement de saison.
Tiens, ouais, c'est vrai. Ouais.
Et après, c'est le mois de juin. Et on a, oui, voilà. Donc là, c'est le départ en vacances.
On connaît un peu ça dans l'émission aussi.
Donc il y a des creux et il y a des. Voilà.
Ah ouais.
Ça fleurit, ça fane.
Donc c'est à toi de gérer tout ça. Est-ce que t'en mets de réserve, t'en mets de côté ou t'en gardes sous le pied?
Des textes sous
ouais.
le pied
ouais.
Non, très peu.
Ah.
Ouais.
Bon. Parce que le format, là, quand même, je regardais, hein, pendant que tu parlais, c'est une cinquantaine
de pages en moyenne.
Ouais, c'est pas rien. Ouais.
Donc là, ouais, on est sur du 52, c'est ça Ouais. 56 peut-être sur le dernier.
Ouais.
Oui, c'est assez dense.
Bah ouais,
finalement.
Tout ça pour la somme modique de
6,50€.
Bravo. Bon, je propose qu'on écoute. Donc il y a 4 extraits. Là, c'est le 3e qu'on va écouter. C'est pas Dominique Ribeco, c'est.
Donc on a.
C'est Jean-Léon Palandre.
Jean-Léon Palandre, ouais.
Voilà.
Qui chronique. Vous allez l'entendre, un disque solo donc récent de la chanteuse Claire Bergerot.
Ah
qui
oui.
N'est pas que chanteuse d'ailleurs. Mais...
Accordéoniste également ouais.
Accordéoniste, mais là il me semble qu'elle est que au chant.
D'accord.
Et c'est assez beau.
On écoute.
Thank you. l'espace et le mouvement de coulées sonores qui se déploient dans l'espace. Mais plus on avance dans l'écoute, et plus on entend aussi la bouche.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée à Revue et Corrigée avec Barbara Dang, et on vient d'écouter Jean-Léon Palandre nous parlant de Claire Bergerot. Alors, Barbara, je ne sais pas si tu es une fine administratrice, est-ce que c'est ton rôle d'ailleurs de les finances ?
Non, pas du tout. C'est du coup.
Il y a quelqu'un qui est préposé à ça dans
voilà,
le...
en fait, quand il y a eu le passage de main. En décembre 2014 maintenant. C'était double passage de main parce que moi j'ai repris du coup les fonctions de Jérôme et Lionel Palin qui est membre de la revue depuis un certain temps aussi a pris les fonctions de Albert Durand qui s'occupait de la partie administrative, donc trésorerie et comptabilité. Et donc ça j'y touche pas, heureusement, parce que
pourquoi?
Parce que je suis pas une femme d'argent.
Ouais, d'accord. Mais est-ce que ça craint, du coup, est-ce que la revue est viable? Combien de... Je sais même pas demander combien d'exemplaires sortent par trimestre.
Donc par trimestre, par numéro, ouais. Là c'est 400, on est passé à 400 exemplaires. On était à 500 avant, mais justement, on fait des petites économies.
Ouais.
Comme on dirait tout bon entrepreneur, il n'y a pas de petites économies.
Ouais.
Le truc horrible. Et on a 200 pour arrondir, hein, on a 200 abonnés. Je pense que c'est plutôt 180, mais ça fluctue d'un numéro à l'autre. Et ensuite, voilà.
La vente au numéro, quoi.
Et la vente au numéro. Mais si tu veux vraiment parler d'économie de la revue et comment ça marche, c'est notamment les annonceurs. Du coup, parce qu'on propose des espaces publicitaires dans la revue. Après, c'est des espaces, c'est de la, entre guillemets, de la bonne pub.
Oui,
des annonceurs proches de la revue. Quoi,
Le Festival Densité, par exemple. Ouais, je vois, oui, il n'y a pas Marlboro, il n'y a pas des saloperies comme ça. Quoi.
Non, ça va, il y a des labels.
Ouais.
On ne fait pas encore de pub pour de la bière. Quoique, ça me fait rebondir sur un truc, c'est que... La revue aussi est assez proche des vins.
Ah,
des vins naturels.
Des vins bio, bah, des Jérômes, hein, oui.
Oui, Jérôme.
Il nous en parle à chaque fois qu'on le reçoit. Ouais. Mais alors, économiquement, ça va ou c'est toujours sur le fil du rasoir?
C'est stable. Ouais. C'est... Non, ça va.
Ça va, bah dis donc. Ouais.
Ouais,
bah,
on a une légère augmentation des abonnés depuis un an et demi ou deux. Mm-hmm. À deux. Et donc, c'est assez stable, ça va.
Bon, pas de souci à se faire.
Non.
Alors, je sais qu'on, nous, on dit dans, assez souvent dans notre émission, quand on reçoit des musiciens, c'est une économie un peu pas évidente, hein,
ouais.
Pour le moment. Peu de choses se font dans les règles de l'art. Et donc, ça fait plaisir d'entendre quand même qu'il y a des structures, des organisations qui s'en sortent. D'ailleurs, tiens, en parlant de structures, est-ce que vous avez un statut, tu parlais d'entrepreneur, mais j'imagine que c'est pas le...
On est tous bénévoles.
Oui, mais est-ce que c'est une asso, par exemple, pour corriger ?
Oui, c'est une association, du coup, c'est une association qui est notre éditeur, donc Nota Bene, ça s'appelle.
Ah, voilà.
L'association Nota Bene, qui est l'éditeur de Revue Corrigée, qui ne sert qu'à ça, d'ailleurs.
Je me souviens bien que je faisais mes chèques à l'ordre de Nota Bene, voilà. ça me rappelle ça, ouais. Alors, on a parlé des numéros, dans leur forme et tout ça, est-ce que tu peux nous préciser celui qui vient de sortir? Alors, on n'est pas en direct et ça ne sert à rien de faire semblant qu'il est sorti. Il sortira, donc là on est en novembre et notre émission sera diffusée fin décembre à la sortie du numéro de décembre. Donc je ne vais pas faire semblant de l'avoir dans les mains et de le lire, on ne l'a pas. Mais est-ce que toi tu dois savoir d'ores et déjà ce qu'il y aura dans ce numéro de décembre 2016?
Alors je ne vais pas tout vous révéler parce que c'est bien de laisser la surprise, mais du coup on aura du coup un nouveau volet du Réflexio de Mathieu Saladin.
Ouais.
Donc voilà, en gros, après je sais de qui il s'agira, mais je vous laisse découvrir.
Oui.
Et donc des interviews, encore c'est souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est assez riche en interviews. Il y aura une interview de Yoshi Wada, qui est un musicien japonais. Je découvre aussi en même temps que vous. Hein.
D'accord.
Une interview de Axel Dorner.
Ah oui, ouais, ouais.
Voilà.
D'accord.
Et de Jean-Marc Foussa.
Ah ouais, dis donc. On l'a reçu à notre émission. Est-ce que tu as des tuyaux pour les numéros à venir? Quand on parlait d'avoir des articles sous le pied, tu as des choses à nous révéler là?
Oui. Bah déjà, j'ai eu l'idée d'une thématique annuelle. Donc maintenant, j'ai l'idée, il faut trouver le contenu. Mais dit comme ça, c'est pas très funky, mais ce serait d'aborder la question de la musique dans les prisons.
Tiens donc.
Enfin, ou en tout cas qui est en rapport avec le milieu carcéral, donc musique et prison.
Ouais.
Voilà, c'est une thématique.
C'est intéressant. Ouais.
Que j'aimerais bien ouvrir peut-être à partir du numéro de 2017, donc mars.
Ouais. Ouais.
Et ensuite, bah oui, j'ai plein de... ce que j'aimerais bien, c'est qu'on rouvre un volet, enfin plusieurs volets, qu'on fasse plusieurs articles sur le cinéma expérimental.
Ah oui.
Parce que ça existait au départ.
Oui, mais... tout à fait. Ouais, ouais.
Et voilà.
Je me souviens d'un article sur Stan Bolkage.
Waouh.
Tu vois, alors, rien. Je sais pas comment ça me revient, ça, mais... Ah, très bien.
Donc ça, c'est un peu, deux idées assez...
J'ai retrouvé la question que je voulais te poser tout à l'heure et que j'ai oubliée. Il y a des revues un petit peu comparables où, on n'est pas dans l'article un peu journalistique, même si tu nous as dit que c'était pas des, on avait affaire à des musiciens, pas des journalistes, mais des revues qui mêlent un petit peu, qui s'ouvrent sur la poésie, des choses comme ça. Est-ce que vous faites ça dans revues, des textes littéraires, on va dire?
Bah, il y a le petit comportement rumeur de Pauline Bourand qui est assez...
Ouais, mais est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer...
C'est pas de la poésie non plus, enfin, c'est peut-être, si, ça peut l'être.
Ouais, mais ça, par exemple, de la poésie ou une nouvelle et tout, ça, c'est pas le propos.
C'est ouvert, hein. C'est vraiment ouvert à ce genre de choses. Autant de ma mission de responsable de publication. Mon mandat, j'ai signé pour 25 ans.
Oh la vache,
On a eu, par exemple, une page unique sur... de Bernard Heitzig, du coup, qu'on peut catégoriser, sans faire de catégorie dans la poésie sonore, où il a juste proposé une page avec un texte à lui, enfin, une image.
Ouais, ouais, ouais.
un tableau, enfin, je sais pas comment on appelle ça, une captation. Mmh. Voilà, oui, c'est assez.
C'est ouvert.
C'est assez ouvert, ouais.
Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'il y a eu, à ta connaissance, ou depuis qu'il y a des un genre de recherche graphique ou tu vois des choses comme
alors,
ça?
Alors oui, très important parce que en fait, depuis le numéro 106,
ouais.
Ou ça doit être le 107, à partir entre la jonction entre le 106 et le 107, il y a eu un changement de maquettiste, de graphiste qui s'est opéré.
Ouais.
Donc, ce qui était Richard Bocobza à Grenoble, qui a beaucoup travaillé dans la maquette de Revue Corrigée, enfin qui était maquettiste depuis longtemps, de longue date, et donc qui a refilé la main à Julie Cronier, qui est une Lilloise, et qui faisait l'ouverture des premiers numéros que j'ai coordonnés, donc du 103 au 106. Du coup.
Ouais.
Ah oui, c'est quelque chose que j'ai pas dit aussi, donc je rebondis un peu. C'est parce que depuis, depuis le passage de main, il y a eu aussi l'idée, et du coup c'est ce qu'on a fait, de faire une entrée visuelle graphique. Visuelle, une entrée visuelle. De la couve aux 5-6 premières pages.
Ah oui, d'accord.
Donc avec un petit texte de présentation d'un artiste, enfin d'un ou d'une artiste. Voilà, invité à qui on confie les premières pages sur un an.
D'accord, ouais. Ah ouais.
Voilà, donc là on a eu Julie Cronier sur les du 103 au 106.
Ouais.
Et actuellement on confie cette entrée visuelle à Noémie Sauve.
D'accord, ouais.
Qui est une plasticienne polymorphe que j'ai rencontrée à Luz.
Ah oui, d'accord, au festival.
Ouais, festival jazz à Luz. Ouais.
Bah, effectivement, c'est très, les couvertures sont très très belles.
Ouais.
Puis même. Ouais. Allez, on va peut-être dire les choses pratiques. Comment trouver la revue? Alors, le site déjà, c'est
www.revueetcorrigee.com. Non, enfin un truc comme ça. Mais je pense que si vous
On tape revue et
corrigée. Si vous recherchez revue et corrigée dans
Un moteur de recherche
sur les internets,
ouais.
Vous allez tomber assez facilement sur le site.
Voilà.
Sinon,
le prix du numéro, on l'a dit. C'est...
Je l'ai là, c'est www.revue-et-corrigée.net.
D'accord, donc le prix du numéro 6,50€.
6,50€ pour la maudite somme de 6,50€.
Et l'abonnement, pareil, on trouve
l'abonnement,
ça.
L'abonnement, c'est 22€ l'année, donc.
Ouais. Avantageux.
Voilà.
Et ça, on s'abonne sur Internet ou via, j'imagine qu'il y a un bon de commande ou je sais pas quoi.
Ouais, je distribue des bordereaux d'abonnement ou sinon sur Internet, c'est assez facile, pratique.
Est-ce que, je me souviens à l'époque, on pouvait commander des anciens numéros. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours le cas.
Dans la mesure où ils sont
dans la mesure où ils sont disponibles. Et du coup, il y a plusieurs distributeurs qui s'occupent de ça.
Ouais, par exemple
Metamkin, essentiellement.
Ah, d'accord.
Donc, Metam, qui est dirigé, enfin, qui est géré par Jérôme.
Oui, Jérôme Montinger. Ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je propose d'écouter la dernière des chroniques.
Oui.
C'est celle de Dominique Répéco. Et il parle d'un groupe qu'on aime bien ici, c'est Étronfou, le loup blanc.
Thank you. absolument rien préparé, je vais vous en parler. C'est très simple, cette affaire de contournement de la nostalgie. Il suffit d'éditer une musique qui n'est jamais sortie avant en disque. Je vais préciser, ça a l'air complexe comme ça. Hein. Ce que vous entendez, là, c'est un enregistrement effectué en 1978. Cet enregistrement n'a jamais été édité, sous quelque forme que ce soit. Les bandes magnétiques ont été rangées quelque part. Je sais même que certains membres du groupe ne savaient même pas qu'elles existaient. Bon, les années passent. 38 ans quand même. 38 ans. Et des jeunes gens qui étaient à peine nés à l'époque décident de s'en emparer pour négocier avec les artistes aussi. Et d'éditer cette bande magnétique sous forme de disque vinyle. Okay. Donc le son est très bon, meilleur que celui de l'édition japonaise. Ce qu'on entend. Donc il s'agit donc d'être un fou de blanc, vous avez entendu Ferdinand Richard avec son magnifique accent. Présenter. Le groupe était à l'époque constitué donc outre de Ferdinand Richard qui chante et qui chante la basse, de Guy Chenevier, batteur, qui chante aussi sur cette pièce, et à cette époque-là, Francis Grand, qui est le saxophoniste. Alors ce concert se déroulait dans un contexte particulier qu'il convient de rappeler, c'était un festival à Londres organisé par un collectif international qu'on appelait RIO, Rock in Opposition, dans lesquels on trouvait des musiciens, des ensembles, comme sur ce festival, en tout cas, Henri Caro, les Anglais. Avec Fred Frisk, Chris Cutler, Timothy Hudson, etc. Les suédois de Samla Mamas Mana, le groupe du regretté Lars Ulmer, Stormy Six, qui de mémoire était italien, Univers Zéro, voilà, trop jeune. Et, presque un recul des positions, opposition au système de diffusion, d'organisation des concerts, etc. Et parallèlement, je crois que pas d'entre vous le savent, Chris Butler, le batteur de Hendrik Aho, le militant, etc. Je pense que la tête pensante de ce mouvement a monté une structure de distribution, de production, qui s'appelle Recommended Records, et qui a connu dans les années 80 un développement là de l'Angleterre en France avec l'activité de notre camarade Dominique Diebold sur Reims, avec AAA et NGA, je ne sais plus dans quelle entité, qui fut le créateur dans cette dynamique-là. Hein, première édition du Festival des musiques de Traverse de Reims, tout début des années 80, voilà, qui a lancé, qui a activé en France une dynamique dans laquelle se ferait vendeur peu de temps après. Mais c'est à Reims que, en tout cas, les choses sont débutées. Record New Records avait ses déclinaisons en Suisse, en Allemagne et au Japon. Mmh. le label qui effectue cette non-réédition s'appelle Replica. Voilà, c'est, quand il réédite, quand ce label réédite, pardon, un disque ayant déjà existé, hein, il est copie conforme avec l'original, il a juste écrit Replica, donc là il ne triche pas sur la marchandise, comme d'autres qu'on ne va pas nommer ici. Donc on sait qu'il s'agit d'une réplique. Il est basé à Metz, en lien fort étroit avec l'excellent magasin qui s'appelle la Face Cachée, au centre-ville de Metz, près de la rue Serpenoise. Et ce magasin gère aussi un autre label qui se consacre à la musique plus, disons, musique d'aujourd'hui. Parmi les... Alors, leur politique de réédition, déjà, puisqu'on est dans les Troncs-Fous, ils ont réédité le premier disque des Troncs-Fous qui s'appelle Batelage, celui qui s'appelle Les Trois Fous Pierre de Gagne, et celui qui s'appelle En public aux États-Unis d'Amérique. Donc, j'aime beaucoup la couverture. Ils vont rééditer prochainement pour les amateurs les poumons gonflés. On ne trouvait absolument plus les disques des Troncs-Fous en public depuis. Parmi les autres groupes anciens réédités, il y a Moving Gelatin Plains, voilà, qui était beaucoup plus passionnant. Zao, alors, d'autres domaines artistiques, peut-être proches du jazz rock. Deux disques assez importants, des disques de compilation qui ont été édités par Dominique Grimaud. Les musiques électroniques en France de 1974 à 1984, en deux volumes, en rouge. Et puis Ptose aussi, voilà, que j'ai un peu oublié personnellement. Shungarat, pardon, un groupe messin Atoll, voilà, que j'ai oublié aussi. Et tous ces disques se vendent beaucoup, particulièrement en Asie. Merci pour votre attention.
Voilà, toujours à l'émission consacrée, émission Les Oreilles Libres, consacrée à la revue et corrigée, avec Barbara Dang. On vient d'écouter Dominique Repecco qui nous faisait la chronique d'un disque de
vinyle. Et Troncs-Fous le loup blanc.
Le titre.
Donc, c'est Live in Rock Composition, voilà, de 1978. Donc du coup, c'est une réédition de 78, mais de 2015.
Ouais.
Voilà, New London.
Bon, est-ce qu'on... Il nous reste un petit peu de temps, on peut parler de toi, de la Barbara Dang non plus, rédactrice en chef de Revue et Corrigée, mais de la pianiste, si tu veux bien. Je voudrais savoir quels sont tes projets actuels. On a évoqué ton duo avec Sophie Agnel, pour lequel tu es à Paris, là, en ce début de mois de novembre, et c'est pour ça qu'on s'est un peu donné rendez-vous aujourd'hui, là. Donc c'est quoi le projet avec Sophie?
Donc le projet, c'est un projet quatre mains.
Ce que tu disais tout à l'heure. Ouais.
Et je pense qu'on va étendre le répertoire. On commence déjà par Symétrique, qui est assez difficile à jouer. Pour l'instant, on commence par ça, mais on aimerait bien essayer d'autres choses.
Toujours sur ce principe, il n'y aura pas deux pianos, c'est toujours
de quatre mains. On aime bien l'idée que ça soit pas deux pianos, mais que ce soit le côté humble du quatre mains, voilà, le truc un peu pas très, qu'on appelle ça, noble, justement. Je sais pas si c'est très noble, jouer quatre mains. Voilà, puis de devenir un ensemble de quatre mains célèbres un jour, comme les frères, je sais plus.
Ah oui, mais alors, tu as deux, moi je t'ai vu dans des formations, est-ce que... dans quelle autre formation ? Je t'ai vu interpréter une pièce de Steve Reich,
De Philippe Glass.
Oui, c'était dans quel cadre?
Avec l'ensemble d'Edalus.
Ah, voilà, ouais.
Ouais. Donc ça, c'est un ensemble avec lequel je joue de temps en temps. On fait des, puis on fait des collaborations aussi avec du coup le collectif auquel auquel je fais partie. Collaboration des Dédalus Musics. Et puis ensuite là, on a joué Philippe Glass, une pièce de une heure, plus d'une heure, qui s'appelle Music with Changing Parts.
Oui, oui, oui. C'était très réussi, bravo. Et oui, donc toi, tu es dans le collectif musique, c'est, il me semble, oui, je t'ai vu, c'est
du
sûr.
Du coup, j'ai plusieurs projets au sein de ce collectif, et notamment c'est le principe.
Moondog, il me semble.
Ouais, Moondog.
Je t'ai vu à plusieurs reprises également.
Qui est aussi une collaboration musique d'Edalus.
Ouais, ouais, ouais.
Et
Moondog, il n'y a pas un disque qui est sorti?
Exactement. C'est sorti quand, ça? Je ne sais plus, à la fin de l'année. Enfin, à la fin de l'année scolaire, je veux dire, de l'année dernière, mai, juin.
Ouais, d'accord.
Ouais.
C'est le répertoire qu'on avait vu en concert à Vendeuvre, notamment, ou moi j'ai vu ça à Paris également.
Ouais, on interprète du coup les 25 madrigaux
C'est les madrigaux, exact.
De Moondog.
Et t'as d'autres projets, il me semble, en duo, ou plusieurs duos même.
Donc, au sein de Musix, j'ai aussi une formation. Qui est un duo, on s'appelle Deux.
Oui.
Donc avec un musicien toujours du même collectif, qui s'appelle Gordon Pym. Et donc là, c'est plus... Enfin bref, vous pouvez découvrir ça en tout cas sur le site internet. Il y a vraiment tous les projets qui sont référencés.
Musix.
Ouais, de Musix.
De ZIX.
Et ensuite, j'ai si on peut appeler ça un trio, en fait... C'est un groupe de trois. Je ne sais pas si, avec ce qu'on fait, on peut vraiment nous appeler par trio,
pourquoi
duo.
Pourquoi
Parce que du coup, ça. C'est une question difficile, ça. C'est une. D'appeler le nom comme quartet ou c'est plus musical, quoi. Tandis que. Je pense qu'avec les projets qui existent maintenant, on est tellement entre la performance, le concert, je ne sais quoi d'autre, l'installation, que c'est difficile d'utiliser un mot
spécifique à la musique.
À la musique, quoi.
Ouais, d'accord.
Je peux pas dire quartet.
Et c'est quoi?
On fait pas du jazz, quoi.
Oui, non, je comprends bien.
Donc avec le Napalin, on parlait du trio, trio qui n'en est pas un, mais donc là on s'appelle Kezen et en fait on interprète, donc avec Lionel Palin et toujours Gordon Pym, on interprète des pièces de musique expérimentale, enfin du répertoire expérimental à contemporaine, en tout cas du 20e siècle. Et qui sont à la base plutôt musicales ou pas, mais ce qui est le principe en tout cas de notre formation, c'est de traduire la partition pour la vidéo, en fait.
Ah d'accord. Ah oui, effectivement, je sais pas. Et peut-être on va terminer l'émission par un morceau. Alors qu'est-ce que tu nous proposes?
Ah oui, alors là. Je vous propose un duo, mais qui fait pas partie de Musix.
Ouais.
C'est un peu un de mes projets, enfin, j'en ai pas non plus 36 000 à côté, mais je veux dire satellite au collectif, qui s'appelle Dango, parce que c'est Raphaël Godot, mon binôme.
Ouais.
On fait ça en binôme, et pour le coup, on peut vraiment parler de duo.
Ouais.
Et moi-même, donc. Le duo Dango,
Godot.
Et on est plus dans l'improvisation libre, pour le coup. Enfin, on est clairement dans une démarche d'improvisation libre. On existe depuis 2009, mais entre nous, puisque on s'est jamais vraiment produit en dehors.
Pas fait de concert.
On en a fait trois.
D'accord.
Mais il y a quelque part, c'est un peu voulu.
Ah d'accord.
Une sorte de, on veut se préserver un peu peut-être de l'extérieur.
C'est bizarre ça quand même.
Et donc voilà, là c'est une improvisation guitare, piano.
Bon, bah d'accord, on écoute ça. Alors, c'est un privilège, en quelque sorte, là. T'es conscient que ça va être écouté par énormément de monde. Terminé, là, comment dire, le côté secret, reclus.
Voilà.
Bah, écoute. Bah, merci beaucoup à toi, Barbara, d'être venue. Et puis, bah, j'espère à
merci
bientôt.
Merci de m'avoir accueilli. Ouais.
Allez, salut.
Salut.